BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis voilà, nos multiples études données, le coup de cœur de la rédaction. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, librairie de l'écho, pour retrouver les références détaillées des livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. La démocratie est-elle aujourd'hui en danger ? Oui, répondent à des titres divers nos deux invités. Elle est fragilisée à l'échelle mondiale avec la montée en puissance des régimes autoritaires et capitalistes. C'est la thèse que vous défendez, Pierre Yvelin. Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est votre dernier livre, Trump, Poutine et Xi Jinping, le national-capitalisme autoritaire, modèle pour un nouvel ordre mondial. Vous êtes professeur d'économie émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du CEPREMAP émérite également. Et puis c'est aussi la thèse que vous défendez, Christelle Mazza, en alertant sur la dégradation en France du service public, un service public affaibli, incarné par des fonctionnaires maltraités. Vous dites, c'est une démocratie fragilisée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, fondatrice de l'association de défense des lanceurs d'alerte Salambo et fondatrice aussi du podcast Marie Larsen. Et votre livre s'intitule « Souffrance au travail dans le service public ». C'est aux éditions du Puy Fleury. Pierre-Yves Hénin, on vous avait reçu en 2021 pour votre premier ouvrage qui était un peu l'embryon de celui que vous sortez aujourd'hui sur ce concept de national capitalisme. À l'époque, vous parliez de danger pour la démocratie. Le constat, aujourd'hui, c'est que c'est devenu le modèle pour un nouvel ordre mondial non démocratique.
C'est effectivement un constat de l'ampleur de la dégradation. Alors, ce travail est un approfondissement et un élargissement, n'est-ce pas, les deux vont ensemble, pour approfondir le concept et voir comment il fonctionne sur les perspectives. Comme je le dis, cet ouvrage commence comme une étude systémique et il se termine sur les incertitudes d'un monde en train de se construire.
Alors, ce national-capitalisme autoritaire, quels sont ses fondements ? Quels sont les piliers sur lesquels il repose ?
Eh bien, donc, si l'on part de cette montée de l'autoritarisme, de cette dégradation de la démocratie, comme le remarque Bertrand Badie dans sa préface, alors que les politistes se concentrent sur le simple phénomène politique du recul, mon approche est systémique. Elle consiste à remarquer que, historiquement, ce phénomène s'est accompagné d'une part d'un contexte nationaliste, une mobilisation du nationalisme, un nationalisme identitaire, sur lequel on reviendra bien sûr, et puis d'autre part, que contrairement par exemple à la période de la guerre froide, où le nationalisme était en rivalité avec un autre système, cette fois-ci, c'est une lutte entre deux capitalismes, le capitalisme traditionnel et libéral, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, et donc cette forme de capitalisme qui monte et en prend la relève.
Alors, nationalisme identitaire, vous l'avez dit, capitalisme, autoritarisme aussi, vous dites.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie des trois piliers. Et alors, vous y allez quand même fort. Vous dites, ce que nous vivons là, c'est le plus grand changement politique intervenu depuis le milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que ce que nous vivons là est plus important que la chute du mur de Berlin.
Eh bien, je le pense maintenant. Je le pense maintenant puisque, d'ailleurs, on a ces facteurs de convergence qui dépassent effectivement les anciennes frontières, qui sont parfois plus forts que les grandes rivalités géopolitiques auxquelles on pense. C'est toute l'ambiguïté, par exemple, de la relation de Trump avec Xi Jinping, toute l'ambiguïté de sa position, par exemple, dans son document de sécurité stratégique. La position vis-à-vis de la Chine est très ambiguë. La Chine n'est pas désignée comme un adversaire, mais comme un concurrent qui pose quelques problèmes, un concurrent qui est parfois pas très loyal. Mais il ne va pas plus loin, si vous voulez, dans une affirmation un peu d'opposition, qui était le cas, par exemple, dans le document de sécurité stratégique de l'administration Biden quelques années auparavant.
Les trois quarts de la population mondiale ne vivent plus en démocratie.
Oui.
Et près de 40% du PIB mondial n'est plus fabriqué par des démocraties.
Oui, largement.
Et donc c'est, je me rappelle les chiffres que vous aviez donnés, c'était il y a 20 ans, c'était à peine, c'était 10% du PIB mondial.
Oui.
Donc c'est beaucoup plus.
C'est effectivement un phénomène. Alors, depuis un an, ce phénomène a été particulièrement accentué et accéléré par la réforme engagée par Trump, c'est-à-dire ce retardataire pressé, hein, qui s'est engagé dans un programme très radical de modification profonde politique, économique des États-Unis pour le rapprocher de ce modèle, évidemment, avec toutes les incertitudes qui vont être, qui se posent quant au devenir. Mais même si les élections apportaient des changements profonds, il restera durablement, il sera durablement des conséquences de la période Trump. Par exemple, pour évoquer un certain point, dans cette déconstruction de l'État profond, profond affaiblissement de la fonction publique fédérale, comme on le voit par exemple dans le département d'État, qui est très appauvri, auquel on ne recourt pas, ce qui fait, on voit ces décisions géopolitiques qui sont prises sans l'avis des experts.
Mais comment vous expliquez quand même le succès de ce modèle, simultanément presque, dans beaucoup d'endroits du monde, avec des cultures extrêmement différentes, des traditions politiques et économiques différentes?
Alors, si l'on part effectivement d'une dynamique initiale de l'autocratisation, l'autocrate d'un gouvernement autoritaire, même dictatorial, ne peut pas vivre que de répression. Il doit avoir une légitimité. Et cette légitimité, cette légitimation, elle repose sur un critère d'abord d'identité, et c'est là que cette identité prendra la forme d'un nationalisme identitaire. Ensuite, il repose sur un certain formalisme. Alors ce formalisme peut être dans certains cas une tradition monarchique ou reproduite, mais en général c'est plutôt une imitation de démocratie. Et puis, le troisième chose, ce sont des performances, parce que le gouvernement autoritaire doit pouvoir à la fois payer, financer le système de répression, financer ses séides, ses propres séides, et donner à la population un niveau de vie suffisant et si possible en croissance pour éviter des montées d'opposition. Si donc, ce sont ces trois piliers, finalement.
Alors, si on regarde les grands régimes, finalement, que vous évoquez, hein, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Inde, est-ce que c'est toujours vrai pour la Turquie, par
bien
exemple
sûr.
C'est quoi les... Alors, on voit bien le socle commun, mais est-ce qu'il y a quand même des différences entre ces pays?
Alors, il y a bien sûr des différences, et les différences les plus importantes concernent sans doute le premier thème, le premier pilier, celui de l'autocratisation. Si l'on prend un pays qui était un ACA candidat ou en cours de construction, la Hongrie d'Orban, on voit bien que la forme d'autoritarisme, même s'il y avait des composantes en matière d'action de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, même s'il y avait des tas de comportements, quand même, les mécanismes démocratiques n'avaient pas pu être suffisamment effacés, si bien que le régime ne s'est pas maintenu. Et puis, à l'autre extrémité, on trouve évidemment la Chine avec cet autoritarisme très complexe, je ne sais pas si on en reviendra, qui a des aspects finalement assez ouverts, un peu consultatifs, et puis, si l'on pense à l'ampleur du mécanisme de surveillance, évidemment, la répression de Xinjiang, c'était aussi un État totalitaire. Mais un totalitarisme qui est assez complexe.
Alors, ce qui frappe Pierre-Yves Hénin aussi, c'est qu'on se dit, finalement, dans ce nouveau monde, la démocratie est perdante, mais le grand gagnant, c'est quand même le capitalisme. Alors, qui devient finalement le mode de régulation économique quasi universel, finalement.
Effectivement, il y a très peu entre la Corée du Nord, Cuba, très peu de pays qui y échappent vraiment. Mais c'est un capitalisme qui est assez différent du capitalisme libéral. Et c'est ce que j'essaie de montrer ici, à la fois autour de chacun de ces trois piliers, que la forme d'autoritarisme, alors là, très ouverte, la forme d'identité et la forme de capitalisme est aussi modifié, assez spécifique. Par exemple, si vous voulez, le capitalisme traditionnel repose sur la formation, si vous voulez, d'agents économiques qui sont considérés comme homogènes, comme individuels. Il s'est construit par effacement des anciennes identités, ça soit nobiliaire, sociale. Donc, cette phase d'indifférenciation, ça, c'est bien montré par Max Weber, par exemple, c'est cette phase d'indifférenciation. Alors que maintenant, on vient vers une redifférenciation sur des relations entre le pouvoir et les principaux agents, qui sont dits patrimoniales, c'est-à-dire qu'il y a une concession davantage du gouvernement, du pouvoir à des gens qui seront des gens peut-être des oligarques. Et avec une deuxième variété, c'est que si ces agents sont plus contraints par le pouvoir politique, on passe par ce qu'on appelle le prébendalisme. Et ça a été une des premières choses qu'a fait Poutine. Sous Yeltsin, les oligarques russes étaient complètement libres, et c'est pratiquement eux qui influençaient la politique. Poutine les a réussi un jour, en juillet 2000, en leur disant, attention, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande, vous ne faites plus de politique, vous m'aidez, et à ces conditions-là, je ne vais pas réviser, je ne vais pas regarder les conditions de vos privatisations.
Ouais.
À ce moment-là, on est passé dans le prébendalisme.
Mais voilà, un des points importants du livre, vous le dites effectivement, c'est que ce capitalisme national autoritaire, il ne se caractérise pas par la domination de l'État, mais par un effacement des frontières entre le public et le privé. C'est ce que vous venez d'expliquer. Moi, j'ai une question quand même, Pierre Yvelin, et la France dans tout ça. Et pour faire la transition avec Christelle Mazat, est-ce que on est à l'abri en France de ce genre de régime, ou bien est-ce que il faut prendre la menace au sérieux?
Alors, je crois que le problème est sans doute un peu différent du seul problème politique, en disant que si un parti qui est engagé dans une direction populiste, nationaliste, prenait le pouvoir, la transformation, quand même, la mise en place de Abdonaka n'est pas évidente. N'est pas évidente. Alors, je n'ai pas tellement réfléchi, si vous voulez, au devenir possible de la France dans ce cas-là.
Christelle Mazat, c'était intéressant quand Pierre Yvelin a dit aux États-Unis, justement, une des actions de Trump, c'est l'affaiblissement du service public. Vous partez de la souffrance au travail des agents du service public. C'est le point de départ de votre raisonnement. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a une spécificité à la souffrance des agents du service public par rapport à ce qu'on voit dans les entreprises privées, par exemple ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je lis souvent ou j'entends, et pourquoi on parle de la souffrance au travail des agents publics et vous ne parlez pas de la souffrance au travail dans le secteur privé? J'ai envie de dire, il y a deux choses très différentes et très distinctes à apprécier. La première, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance au travail en général, dans le privé et dans le public, pour des tas de raisons qui sont sociétales et j'ai envie de dire même mondiales dans les démocraties occidentale. En revanche, il y a une spécificité de la souffrance au travail des agents publics. C'est-à-dire que la souffrance au travail des agents publics, le travail public en soi, c'est le fonctionnement des institutions. Donc à partir du moment où vous dépréciez le travail et vous dépréciez l'essence et l'existence professionnelle des agents publics, vous ne touchez pas simplement au travail en soi, vous touchez à la structure institutionnelle d'une nation. Et c'est ça, en fait, que ça a révélé cette étude, c'est qu'en partant de la souffrance des agents, on remonte à une véritable problématique de théorie de l'État, en fait.
Alors, question que je ne peux pas ne pas vous poser. Vous savez très bien ce qu'on dit des fonctionnaires, vous savez très bien ce que montrent quand même pas mal de rapports, si on regarde le temps de travail, l'absentéisme, c'est que on sent bien qu'effectivement, au niveau des agents publics qui sont confrontés, qui sont au contact des usagers, il y a une paupérisation, un stress, etc. Mais on se dit aussi qu'il y a quand même beaucoup d'administration, disons, entre le guichet et le bureau du ministre, si vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des fonctionnaires qui sont pas débordés, quoi.
Alors en fait, je pense que ça relève d'une opinion. Parce que dans les faits, que ce soit au niveau des statistiques sur les arrêts maladie ou sur l'efficience en fait du travail, c'est pas du tout ce que l'on voit dans la pratique. Et ensuite, fonctionnaire, c'est quand même beaucoup beaucoup de monde. Ouais. Fonctionnaire qui inclut aussi les agents contractuels. Donc on peut pas faire de généralité. On a un peu les mêmes choses dans le public et dans le privé. Ce qui est important de savoir, c'est que on regarde la Constitution, article 20, qui nous dit le gouvernement a à sa disposition une administration pour gouverner la nation. Donc les fonctionnaires, agents publics, sont constitutionnellement soumis à l'exécutif, qu'il soit national ou local. Donc ils exécutent en gros les ordres, c'est-à-dire le patron dans le service public et des agents, c'est l'État au sens large. Mais la contrepartie de cette sujétion, c'est que les fonctionnaires ont un statut qui les protège de la toute-puissance de l'État, notamment le droit de retrait, le droit de ne pas exécuter un ordre illégal. Et ce qu'on constate dans les faits, c'est qu'en fait, alors il y a diverses notions d'État, l'État régalien, l'État dit instituteur du social, c'est-à-dire qu'en France, ça c'est très spécifique, l'État organise la nation, on parle d'éducation nationale, on a tout un héritage historique sur l'État protecteur paternaliste, on a aussi l'État providence et on a l'État régulateur de l'économie. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, et je rejoins votre propos, on a plutôt l'économie qui régule l'État. Mais pour en revenir aux agents publics, à partir du moment où on constate, et c'est tout l'objet de la souffrance au travail des agents, que le statut ne protège plus les agents publics, que l'État a dévoré le service public, l'État a été dévoyé, ce qui génère un démantèlement en fait du service public et du statut, un dévoiement, ce que moi j'ai appelé, et je rejoins votre terminologie un peu radicale, l'eugénisme juridique, le droit, le statut a été utilisé pour finalement re-assujettir les fonctionnaires comme on avait dans certaines pans de l'histoire, notamment l'impérialisme. Et tout ça montre aujourd'hui que cette atteinte au travail des agents publics est enfin, en fait, une séparation entre l'État et le service public.
Alors, vous évoquez des pratiques qui peuvent conduire à des formes de harcèlement institutionnel grave, à la perte de sens du travail, à la détresse psychique des agents. Est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des cas concrets ?
Oui, alors je vais prendre les exemples les plus pertinents, mais qui sont extrêmement importants, parce que c'est ça qui déstructure et déstabilise profondément notre système. Ça va être le cas de la justice, par exemple. Actuellement, et c'est vraiment très d'actualité, l'affaire là qui vient d'être médiatisée de la petite Liana, ouais. C'est notre quotidien, il faut le savoir. C'est la paupérisation du service de justice. Et quand vous avez une organisation qui est malade, qui n'a plus les moyens de fonctionner, on n'est pas là dans une entreprise qui doit produire pour avoir une certaine rentabilité. On est dans un fonctionnement de structure régalienne de l'État qui fait que ça produit malheureusement une extrême violence à la fois endogène et exogène. Donc on n'a pas les moyens suffisants pour travailler. Et par ailleurs, il faut admettre aussi que c'est une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, dans les effectifs, il y a des dysfonctionnements. Là, la particularité de notre régime présidentiel, depuis 2019 notamment, c'est qu'on a progressivement démantelé les hauts corps de l'État. Et ça déstabilise énormément aussi notre système.
Est-ce que cet exemple de la justice, on peut le multiplier sur la santé,
oui,
l'éducation ?
Oui, les hôpitaux, l'éducation nationale. Moi, si vous voulez, les gens qui disent les fonctionnaires, ils sont trop... ils servent à rien, ils sont narrés. Moi, je mets au défi quiconque de venir travailler dans le service public et de tenir ne serait-ce que 48 heures. Il n'y a quasiment aucun service public qui fonctionne légalement. Et j'ai envie de dire même, je vais aller beaucoup plus loin. Si aujourd'hui, on dit très bien, on estime que la fonction publique, ça ne sert à rien, ça coûte trop cher, j'ai dit, soit on va faire un cas d'école, on va mettre toute la fonction publique à l'arrêt, fonctionnaires, agents publics, ne travaillez plus pendant 48 heures. Et on va voir que le pays ne fonctionne plus. On a une bascule de régime. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que, en portant atteinte au travail public et au service public, on déstabilise énormément, en fait, l'État. Et qu'en faisant rentrer tout le service privé, donc en faisant rentrer l'économie dans l'État...
Qu'est-ce qui, à partir de quand ça dérape? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que, par exemple, on ne peut pas demander au service public de respecter des contraintes d'efficacité, de rentabilité, de compétitivité, un peu comme les entreprises privées?
Ah mais non, mais ça fonctionne pas. On peut pas dire d'un État, vous pouvez pas dire la délinquance, il faut une rentabilité. Tiens, aujourd'hui, je vais faire 10 gardes à vue, comme ça, je vais obtenir tant. Il faut bien savoir qu'on est là en train de régir une nation, des citoyens, un pays, des comportements humains par nature accidentels. Vous pouvez pas dire dans un service, un bloc opératoire, tiens, aujourd'hui, je vais faire 50 opérations, il va y avoir 300 cancers, enfin c'est d'un cynisme absolu. Et c'est pas fait pour ça en fait l'organisation d'une nation. Il y a pas de notion de rentabilité. Il y a dans certaines parties de l'État quelques notions économiques.
La question, on est quand même obligé de se la poser quand on voit que ça marche aussi bien, voire mieux, dans des pays où ils dépensent pas plus, voire moins que nous pour rendre le même service. Donc vous comprenez l'interrogation autour du rapport coût-efficacité quand même du service public. C'est-à-dire que les Français, ils vous disent aujourd'hui, attendez, on paye de plus en plus d'impôts et on est de moins en moins bien soignés, éduqués, protégés, jugés, etc.
Bah oui, mais ça c'est un vrai sujet. Mais c'est pas les fonctionnaires qu'il faut rendre responsables, c'est l'État. Parce que il viendrait à personne à l'idée de dire cette entreprise a coulé parce que ses salariés sont nuls. On va responsabiliser l'employeur. On va dire mais qu'est-ce que vous avez fait dans l'organisation de travail ? En fait, si vous voulez, quand on va regarder dans le détail ce qui se passe, c'est où va l'argent ? Il faut, comme disait Falcon pour la criminalité organisée, il faut suivre l'argent. Quand vous rentrez dans le détail des finances publiques, et c'est un des marqueurs aussi de la souffrance au travail des agents publics, c'est que derrière une situation de harcèlement institutionnel, il y a très souvent des problématiques de probité. Et qu'en fait, il y a une partie de l'appareil de l'État central qui a détourné, en fait, dévié un peu la route, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au service de la nation, en démantelant le service public, en faisant porter la responsabilité en plus à de simples exécutants que sont les agents publics, on redistribue en fait cet argent public au secteur privé. Et je vais même beaucoup plus loin dans certains chapitres, c'est qu'en en faisant de ce système un petit gruyère en fait, hein, qu'on a ouvert au secteur privé, on l'a aussi ouvert à la criminalité organisée. Et tout ça est un ensemble, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont les garants et les protecteurs de l'intérêt général, plus que l'État, c'est ça qu'il faut comprendre. L'État, il y a des régimes, l'État peut être renversé, et ce qui s'annonce d'ailleurs est pas très rassurant. Les grands protecteurs de l'intérêt général, c'est comme ça qu'est prévu le statut, ce sont les agents publics. Donc quand on porte atteinte au statut aux agents publics, on est en train de détourner l'appareil de l'État. Et on le voit d'ailleurs, il y a un autoritarisme de plus en plus fort qui rejoint dans notre histoire ce qui était sous le bonapartisme, en fait. C'est une forme d'impérialisme. Et qu'on retrouve dans l'hyper-présidentialisme, d'ailleurs, auquel on assiste actuellement.
Vous dites, il y a effectivement ce qu'on voit, c'est donc ces conflits d'intérêts, finalement, entre ce que vous appelez les injonctions organisationnelles et les missions de service public.
En fait, c'est un long process qui a démarré dans les années 80, sur impulsion internationale d'ailleurs. Bon, le néolibéralisme, un des instruments, c'est le New Public Management. Donc on a voulu introduire dans l'administration l'organisation du travail des concepts qu'on avait dans le secteur privé. Mais en fait, l'objectif poursuivi, c'était ce démantèlement progressif, en fait, pour restreindre en fait l'État à un strict régalien. Là où ça devient très très dangereux, c'est quand on commence à faire, par exemple, de la justice une administration, où on a aussi des mécanismes de privatisation. Maintenant, on rend, dans certains cas, la médiation obligatoire. Un médiateur, il faut le payer, c'est une forme de justice privée. Par ailleurs, ça renverse les rapports de domination. Il faut une justice dans une société démocratique qui vient arbitrer les conflits, parce que la médiation, dans certains cas, quand vous rompez la neutralité de l'État, qui est censé protéger et assurer l'égalité entre les citoyens, vous basculez dans des rapports de domination qu'on retrouve dans le monde économique. C'est ça qui met la démocratie en danger. C'est-à-dire qu'en enlevant toutes les valeurs qui font une nation sur des principes d'égalité, on en arrive à une ultra-compétitivité sur des secteurs qui ne peuvent pas, éthiquement parlant, être ouverts à la concurrence. Voilà, c'est beaucoup le régalien, la sécurité, la défense, la justice, mais aussi la santé. Et dans une certaine mesure, quand même, je voudrais inclure aussi l'éducation et l'université, parce qu'on assiste à des financements par le secteur privé aussi de l'université qui viennent aussi, à un certain point, organiser une forme de manipulation intellectuelle aussi.
Mais ça n'est pas donc une question de manque de moyens, ce qu'on entend toujours, en fait, globalement.
Non, il y a des moyens. On paye beaucoup d'impôts et il y a de l'argent. Il est simplement détourné de son objet. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le service public ou les fonctionnaires qui ne sont pas efficients. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, évidemment. Mais il y a une organisation qui est très dysfonctionnelle, très maltraitante. Il y a une impossibilité d'ailleurs dans certains secteurs, dans l'hôpital public, d'assurer la continuité de service. On est quand même 23e sur 27 en Europe sur la mortalité infantile, parce qu'il y a une désertion des professionnels compétents, parce qu'on n'arrive pas à recruter pour assurer donc la permanence des soins, et parce que finalement le service public ne peut plus être assuré comme il devrait l'être.
Christelle Mazat, est-ce que ce que vous décrivez, c'est quoi la suite, et est-ce que ça nous mène au national-capitalisme autoritaire que décrit Pierre-Yves.
Ben, je rejoins tout à fait ces conclusions par un autre biais, alors avec l'histoire propre qui est celle de la France, mais c'est très inquiétant parce que j'ai envie de dire, c'est un savant mélange entre ce que je viens de dire et l'influence étrangère, où on l'a vu d'ailleurs, certains ministres de la fonction publique à un moment ont voulu s'inspirer de la bureaucratie américaine pour faire le ménage dans le service public. Le but poursuivi, il faut être très clair, c'est l'autoritarisme.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que vous proposez des pistes de réforme dans votre livre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Moi, j'invite les agents publics à sortir de la situation de sujétion. Alors, c'est leur mettre beaucoup de responsabilités sur le dos, ça c'est sûr, parce qu'ils ont l'habitude d'obéir aux ordres. Et c'est devenu tellement problématique que actuellement, et moi je le vois, j'ai des préfets en garde à vue pour les réduire au silence, j'ai des choses extrêmement graves que je n'ai jamais vues en 20 ans, c'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte que les hauts fonctionnaires également puissent obéir pour taire en fait ce qui est en train de se passer dans les rangs. Il faut à un moment donné organiser des mécaniques de résistance à l'État, parce que là, clairement, l'État est dévoyé. Donc, c'est aux agents publics de se réapproprier leur statut et de ne pas obéir aux ordres illégaux et d'essayer d'organiser, oui, une forme de d'opposition, en fait, à ce qui est en train d'arriver. Et puis, par ailleurs, le recours aux agents contractuels très jeunes, du secteur privé, des écoles de commerce, qui viennent déstabiliser profondément le savoir-faire, en fait, de l'État tel qu'on l'avait. Ça aussi, c'est un problème. Et là aussi, il faut opposer une résistance et rappeler la loi. L'emploi permanent, il est occupé par des fonctionnaires titulaires. Voilà.
Moins de démocratie administrative, c'est moins de démocratie tout court. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Pierre-Yves Hénin, Trump, Poutine et Xi Jinping, le national-capitalisme autoritaire. Modèle pour un nouvel ordre mondial, c'est aux éditions L'Harmattan, Christelle Maza, souffrance au travail dans le service public, sortir du silence, entrer en résistance. C'est aux éditions Dupuis Fleury. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de la librairie de l'écho. Vous retrouvez le coup de cœur de la rédaction. Nos études diverses et variées. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. Christian Chavagneux, qui n'est pas à ma gauche aujourd'hui, mais à distance pour cause de canicule, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, le grand Manitou de la rubrique livre dans Alternative Économique, le magazine. Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique et aussi critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian. La mutation du système financier français entre 1978 et 1992 dans la collection qu'on aime bien à la librairie de l'écho, c'est celle du comité d'histoire économique qui publie des travaux très approfondis. C'est écrit par Alain Casperet. Mais que s'est-il passé dans ces années folles de la transformation financière, Christian?
Alors, je vais d'abord commencer par vous présenter un petit peu l'auteur, parce qu'il a un parcours un peu singulier. C'est un ancien banquier. Il a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais, puis on l'a retrouvé chez Paribas, puis chez BNP Paribas. Donc vraiment, le banquier d'affaires traditionnel qui, au moment de la retraite, se décide à rentrer dans le champ académique. Donc, il passe son master en histoire économique et écrit sa thèse en histoire éco. Et le bouquin est donc est issu de cette thèse. Franchement, j'ai voulu le mettre en avant parce que c'est un travail scientifique remarquable, un travail d'archives qui a été fouillé, écrit, travaillé. Franchement, j'ai été très, très impressionné. Ce bouquin, il porte sur quoi? Sur la période exactement où le système bancaire et financier français a été complètement libéralisé. Vous m'auriez posé la question, j'aurais dit, bah oui, loi bancaire 1984. Ben non, l'auteur nous dit, en fait, dès le 8e plan, et oui, c'est dans le plan qu'à l'époque, alors 1978 déjà, comme le plan, vous savez, c'était un endroit où les gens du public et du privé pouvaient se rencontrer ensemble pour tracer les évolutions d'avenir, et bien dès le 8e plan, 78, on pense à libéraliser le système bancaire et financier français. Pourquoi? Parce que l'encadrement du crédit, il faut se rappeler à l'époque, hein, les banques étaient très encadrées sur leur distribution de crédit par l'État. Ça ne marche pas très bien. Alors, l'auteur nous dit, il y a quand même quelqu'un qui, dans cette ambiance très libérale, Jean-Baptiste de Foucault, inspecteur des finances, futur commissaire au plan, qui dit, l'encadrement du crédit, ça marche peut-être pas bien, mais ça a aussi ses avantages. Donc, mais jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Bon, il est un peu la seule voix dissonante.
Alors, juste Christian. L'innovation financière. Christian, il y aura quand même un petit détour par quelques nationalisations.
Alors, avant les nationalisations, c'est tout ce qu'a fait Pierre Bérégovoy, en fait. Parce que il y a ce que font les banquiers, c'est-à-dire les innovations financières qui vont contourner toutes les règles. Et puis, il y a ce que fait Pierre Bérégovoy, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui commence à créer un marché monétaire de court terme, créer un marché obligataire pour que les l'État français puisse se financer par le marché obligataire. C'est lui qui commence à libéraliser tout ce que peuvent faire les banques. Donc, on est vraiment sur une période, première période qui est celle de Pierre Bérégovoy. Et c'est Édouard Balladur qui, derrière, va terminer le travail, si je puis dire, avec là aussi une petite chose amusante, parce que au-delà des privatisations que vous venez de mentionner, Emmanuel, eh bien, il y a la libéralisation complète des marchés de capitaux, et c'est le gouverneur de la Banque de France qui dit, attention, faut pas aller très loin, et quel gouverneur à l'époque? C'est Michel Cantu. Donc, Michel Cantu qui dit, attention, faut pas trop libéraliser les mouvements de capitaux, c'est plutôt amusant. Alors, il y a énormément de choses dans ce bouquin. Moi, j'en retiens deux ou trois comme ça, parce qu'évidemment, on peut pas parler de tout. Il y a eu une guerre pour s'approprier les parts mondiales avec la libéralisation. Et bien qu'étant socialiste, Pierre Bérégovoy a compris que la France devait rentrer dans cette guerre pour pouvoir attirer les parts mondiales. Et puis, on trouve une chose que je trouve vraiment complètement étonnante, c'est que les banques françaises sont sous-capitalisées dans les années 70, 80, 90, 2000, 2000, jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit les banques françaises sont sous-capitalisées, c'était vrai déjà dans les années 70. Et puis, dernier point, avec toute cette libéralisation, il y a un nouveau risque qui est né. C'est le risque systémique, le fait que tout le système puisse être embarqué. Et il y a quand même un chercheur français qui, dès le début des années 90, a pointé ça, c'est Michel Aglietta.
Jean-Marc Daniel, avez-vous aimé ce livre ?
Alors, c'est un livre remarquable par la qualité et la qualité du travail.
Évidemment, c'est un livre qui ne se lit pas comme un roman policier. Même s'il y a beaucoup de... Il y a des coupables, il y a des héros dans cette aventure. Oui, il y a une... Quand on regarde la séquence dans le temps, effectivement, il commence avant 78, il dit 78, c'est une vraie rupture qui va être liée au fait qu'il y avait eu des réformes qui ont été prises à l'époque où Michel Debré était ministre de l'économie et des finances dans les années 65-68, mais 68 arrête tout, et puis jusqu'en 78, il se passe pas grand-chose, et l'arrivée de Raymond Barre et la victoire aux élections de la droite avec Raymond Barre comme Premier ministre va enclencher une nouvelle série de réformes avec trois objectifs. Se débarrasser de l'encadrement du crédit pour lutter contre l'inflation. Se débarrasser effectivement d'une espèce de carcan qui est un carcan où les banques sont publiques, sont nationalisées et où les banques mutualistes sont en train de prendre une importance considérable parce que les banques nationalisées n'arrivent pas véritablement à avoir l'autonomie qu'elles devraient avoir. Et se débarrasser d'un carcan où il y a un contrôle des prix, un contrôle des changes, où l'économie est administrée. Alors, évidemment, comme vous le disiez, il y a la période 81-83 qui va un peu être à l'écart de tout ça, mais Christian l'a dit, Pierre Bérégovoy arrive, donc c'est le deuxième B, et donc il y a les trois B qui sont les héros de cette aventure, Barre, Bérégovoy, Balladur. Et donc ces trois B vont construire un système où il n'y aura plus de contrôle des prix, plus de contrôle des changes, où la politique monétaire servira à lutter contre l'inflation, où les banques auront été privatisées, y compris celles qui avaient été nationalisées dès 1945-46 et non pas simplement celles qui ont été nationalisées en 1981. Ce qu'on retient dans cette aventure, c'est que effectivement, il y a une sorte de nécessité de faire bouger le système et de le faire bouger, y compris sur le plan intellectuel. Christian l'a dit, il y a deux références sur le plan universitaires qui sont mises en avant par l'auteur, qui sont Christian de Boissieu et Michel Aglietta. Il dit que c'est des gens qui ne sont pas du même bord et qui pourtant ont véritablement compris ce dont avait besoin le système, comment on devait faire évoluer le système, et en particulier comment on devait donner plus d'autonomie aux banques, mais comment il fallait effectivement définir un encadrement dans ces banques. Et puis ils ont compris aussi que 1978, c'est la signature du SME. Comment on rentre dans un système qui va être monétaire européen, qu'on rentre dans un système qui va être conditionné par les rapports avec l'Europe. 1992, qui est la fin de sa période, c'est le traité de Maastricht. Donc c'est véritablement aussi une dimension, la nécessité européenne à guider l'action des 3 B, Barre, Bérégovoy, Balladur.
Et on continue avec votre choix, Jean-Marc Daniel. Anatomie de la bureaucratie par Frédéric Masquelier, c'est aux éditions du CERF.
Alors c'est un livre qui est moins important sur le plan de l'épaisseur en termes de quantité de pages, mais ce qui est important sur le fond, hein, c'est un livre où il y a une véritable réflexion. Donc qui est Frédéric Masquelier? C'est un juriste, il a un doctorat en droit, qui fait de la politique, il est maire de Saint-Raphaël, et c'est un personnage qui est un peu connu dans le monde politique pour sa contribution au débat des idées. Et donc il fait une anatomie, ce qu'il appelle de la bureaucratie, en partant sur le plan historique jusqu'à la plus haute antiquité. Il dit, écoutez, on a à peu près réussi à chiffrer le nombre de scripts tribus qu'il y avait dans l'Égypte pharaonique, surtout à l'époque grecque, à l'époque des Ptolémées, on sait à peu près combien il y avait de scribes et tout ça. Or, nous assistons à une évolution de cette bureaucratie qui a toujours existé, qui a été assez souvent très prestigieuse. Il rappelle quand même que en France, par exemple, les écoles les plus prestigieuses sont à l'origine des écoles destinées à fournir des fonctionnaires, que ce soit l'ENA, qui s'appelle plus comme ça, mais l'école normale supérieure ou l'école polytechnique, elles avaient été créées pour fournir des fonctionnaires. Or, il dit, on est passé d'un système qui était un système de bureaucratie à un système, ce qu'il appelle l'algocratie. C'est-à-dire, c'est les algorithmes qui sont en train de s'imposer, sinon de prendre le pouvoir, mais disons de s'imposer, avec comme conséquence, c'est qu'on est de moins en moins en contact avec des gens, physiquement, que le système est de plus en plus susceptible d'être attaqué, d'être hacké, que le système se déshumanise et que le système est finalement extrêmement contraignant. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec quelqu'un, on peut négocier avec ce quelqu'un. Quand on est en contact avec un algorithme, on négocie pas, on est soumis à l'algorithme. Et il dit, on est en train de créer une nouvelle société d'organisation de l'État qui suppose une véritable réflexion sur ce qu'on attend de la bureaucratie traditionnelle, sur ce qu'on attend de ces algorithmes et sur la façon dont les hommes vont être appelés à répondre à cette révolution. J'ai trouvé ça à la fois bien mené, assez pertinent. À la fin, il a une conclusion en disant, le débat n'est pas tranché, c'est aux hommes politiques de reprendre le pouvoir. C'est à la fois de bon sens et conforme à ce qu'il est.
Christian Chavagneux, cette anatomie de la bureaucratie.
Bah, j'ai trouvé que la question posée par l'auteur était vraiment très très justifiée. À partir du moment où on passe dans une décision bureaucratique rationnelle, entre guillemets, algorithmique, est-ce que le monde change ou pas ? Donc le thème est vraiment pertinent et la question posée est vraiment justifiée. Après, j'ai trouvé que la réponse apportée par l'auteur moi, m'a pas complètement convaincu d'abord, parce que dès l'introduction, l'auteur fait l'erreur que font 95% des livres qui parlent de la bureaucratie, c'est de considérer que la bureaucratie est uniquement un phénomène étatique. Or, c'est bien de lire Max Weber sur le phénomène bureaucratique, mais il faut lire Galbraith aussi, qui nous a montré depuis déjà de nombreuses décennies que le phénomène bureaucratique, il est aussi présent dans toutes les grandes multinationales. Et donc là, ne considérer que la bureaucratie n'est qu'un phénomène d'État, c'est dommage. Je trouve que ça limite et ça aurait, on aurait pu, peut-être pu, et même sûrement pu, élargir la réflexion. Du coup, quand on se concentre sur l'État, eh bien, la tentation, c'est quand même de la part de l'auteur de devenir quelqu'un qui n'est pas du tout en phase avec l'intervention de l'État dans l'activité économique. Et donc, on se retrouve avec des choses qui sont complètement hors sujet. Par exemple, on n'aurait pas dû mettre les départementales à 80 km/h. Ok, mais quel rapport ça a avec l'intervention des algorithmes ? La T2A, ça ne marche pas bien pour les hôpitaux. Ok, mais quel rapport ça a avec le fait de mettre les algorithmes dans la bureaucratie, etc., etc. Donc le livre, de temps en temps, quand même glisse vers le côté anti-étatique facile. Alors, il y a quand même des longues parties où il essaye vraiment, l'auteur, d'analyser ce que fait l'arrivée des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans la décision bureaucratique. Mais là, il nous dit quoi ? Il nous dit il y a des problèmes de verticalité de la décision, de cloisonnement de la décision, d'opacité de la décision. Mais tout ça, on le disait déjà, de la bureaucratie traditionnelle, qu'elle soit avec l'IA ou pas avec l'IA. Donc, j'ai trouvé que la question posée était bonne, justifiée, l'angle est le bon. J'étais assez déçu des réponses proposées.
Merci Christian Chavagneux, merci Jean-Marc Daniel. Allez, c'est l'heure de notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
Et on reçoit Pierre Lion, directeur global des ventes entreprises de la fintech SumUp, qui ausculte très régulièrement le rapport des Français à l'argent et le moral financier des Français, avec notamment cette dernière étude, Pierre Lion, qui révèle comment les fins de mois pèsent sur le moral des Français et leur sommeil. Je cite ce chiffre quand même qui m'a marqué. 20% des Français ont perdu le sommeil à cause de leurs finances.
Voilà, effectivement, Emmanuel, l'inflation n'est pas juste une statistique. Pour des millions de Français, c'est devenu une angoisse quotidienne, bien sûr, qui pèse jusque dans leur sommeil. Donc le chiffre est assez important, 20% des Français, dans l'étude YouGov d'avril, qui déclarent avoir soit perdu le sommeil, soit avoir des problèmes de sommeil suite à des problèmes d'argent, de fin de mois, de l'avenir, de leurs enfants.
Alors, ce qui angoisse particulièrement les Français, c'est finalement l'ampleur prise au fil des années par ce qu'on pourrait appeler les dépenses contraintes et les dépenses essentielles.
Voilà, donc les dépenses essentielles, déjà pour 32% des Français, concernant les vacances, ils les ont éliminées, donc ne reste que les dépenses essentielles. Et les dépenses essentielles sont elles-mêmes un souci au jour le jour, puisque les prix augmentent et les salaires, bien sûr, ne suivent pas. Et ce qui est important de noter, c'est que les nuits, les fameuses nuits perturbées, ont atteint 31% chez les 18-24 ans. Donc vraiment, les jeunes ont aussi aujourd'hui subissent un impact important lié à l'inflation qui devient structurelle.
Qui sont les consommateurs les plus vulnérables? Alors vous venez de citer les jeunes, mais au-delà de ça, qui sont les consommateurs les plus fragiles? Est-ce que vous arrivez à avoir une idée des profils?
Bien sûr, donc malheureusement toujours les mêmes catégories, on parlait des 18-24 ans, et ensuite 26% des femmes se sentent financièrement confiantes, contrairement à 41% des hommes qui expriment une confiance dans la fin du mois et la gestion de leurs finances. Donc les catégories femmes, étudiants, et puis géographiquement, on observe aussi que le plus haut taux d'anxiété est concentré sur le Nord-Est, tandis que Paris a la confiance financière la plus élevée.
Qu'est-ce que ça dit de finalement de du niveau de vie des Français aujourd'hui, hein, puisque vous arrivez à suivre à peu près tous les types de dépenses et qu'est-ce qui a changé depuis on a l'impression que le avant le Covid et maintenant, enfin, je veux dire nos vies de consommateurs ont quand même radicalement changé.
Voilà, donc les angoisses se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Il y a eu l'angoisse du Covid. Aujourd'hui, l'angoisse tout simplement du quotidien, des finances au quotidien. Comment je règle la cantine des enfants? Comment, à partir du 15 du mois, je vais pouvoir faire les courses? Et comment, en début du mois, je vais faire face aux fameuses dépenses contraintes? Donc, l'angoisse aujourd'hui, elle n'est plus uniquement sur l'avenir, que va être ma vie professionnelle, comment je vais pouvoir gérer mon budget quand je serai à la retraite. L'angoisse, elle est au quotidien, c'est-à-dire comment je finis la journée, comment je vais faire mes courses le samedi en grande surface.
Et pourtant, Pierre Lyon, personne au monde quasiment n'épargne autant que les Français.
Voilà, donc les Français épargnent, et donc c'est bien un signe d'ailleurs d'anxiété, c'est-à-dire que même les petits épargnants se soucient du lendemain et donc vont faire deux choses, à la fois complètement rationaliser les dépenses contraintes, donc vraiment au centime près pour certains, à l'euro près pour d'autres, même les ménages qui auraient plutôt une capacité financière un peu plus élevée, et ensuite, une fois rationalisé le budget du quotidien, l'épargne va servir non pas à partir en vacances, donc je le disais au début, 32% des Français ont annulé leurs vacances, mais en revanche, il va servir à construire l'avenir, c'est-à-dire construire sa retraite, construire les études des enfants et construire un lendemain peut-être un peu plus meilleur.
Merci beaucoup Pierre Lyon de nous avoir partagé les résultats de ces travaux de la FinTech SumUp. Allez, c'est l'heure de retrouver d'autres études et d'autres chiffres.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on s'intéresse cette semaine aux travaux d'Allianz Trade sur les canicules. Plusieurs travaux que l'on va synthétiser ici avec une idée quand même majeure, c'est que ces canicules coûtent cher à l'économie française. Nous ne sommes que fin juin et la France subit déjà sa deuxième canicule. L'an dernier, à la même époque, les fortes chaleurs avaient coûté sur le moment 0,3 points de croissance à l'économie française, nous dit Allianz Trade. Un impact plus important qu'en 2003 parce qu'à l'époque, la canicule avait frappé surtout en août quand l'activité tourne au ralenti. Pour donner un ordre d'idée, nous dit Allianz, un jour de canicule aurait été à le même effet sur l'activité économique qu'une demi-journée de grève, sachant quand même que 30 à 50% de l'impact initial est rattrapé selon la Banque Centrale Européenne. Alors pourquoi l'impact global est-il si négatif? Eh bien parce que 70% des entreprises sont météo-sensibles et globalement la canicule pénalise la production à travers les excès de chaleur, les incendies. Les salariés sont moins productifs, jusqu'à 50% au-delà de 33 degrés, nous dit l'Organisation internationale du travail. Les secteurs les plus affectés, le BTP, les transports, le trafic aérien et la circulation des trains notamment, les pannes de voitures qui sont plus nombreuses, l'agriculture bien évidemment, même les marchés financiers travaillent moins quand la canicule sévit, puisqu'on constate 5 à 7% de transactions en moins. Impact négatif aussi sur la consommation, elle avait baissé de presque 3% en août 2003. Au final, les canicules, c'est moins de croissance, plus d'inflation, des dépenses de santé et des réparations d'urgence plus élevées. Tout ça coûte en moyenne 15 milliards d'euros par an aux finances publiques, sachant que la France est un des pays européens les plus vulnérables à ces canicules.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre éditorialiste tech, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Le livre dont vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, c'est celui de Bruno Patineau, qui, on le sait, réfléchit beaucoup sur toutes ces questions autour de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle « Le temps de l'obsolescence humaine ». C'est publié chez Grasset.
Oui, exactement. Et Bruno Patineau, on va revenir sur lui dans un instant, il s'interroge sur l'impact de l'IA dans notre quotidien, à la fois professionnel et personnel. Est-ce que l'IA, c'est un simple outil pour nous faciliter la vie, ou est-ce qu'au contraire, ça va nous transformer complètement? On va dire que c'est un peu des deux. Alors Bruno Patineau, juste rappeler pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste, essayiste. On l'aime bien chez nous parce qu'il a une vraie réflexion à la fois sur les médias. Ouais. Il dirige aujourd'hui Arte. Il a été pendant plusieurs années directeur de France Culture, de France Télévisions. Mais surtout, il s'intéresse à la tech. Il avait déjà sorti son livre qui s'appelait La civilisation du poisson rouge, où il analysait un peu nos rapports avec l'information, les écrans, les technologies. Là, on va parler civilisation. Alors le titre, l'obsolescence humaine, le temps de l'obsolescence humaine, fait référence à un titre d'un philosophe, Günther Anders, qui avait publié L'obsolescence de l'homme dans les années 50.
Ah oui. Alors,
il montre que nous sommes entrés dans une nouvelle étape de la révolution numérique, après Internet, les réseaux sociaux, les smartphones, etc. Il y a les IA, et les IA, avec leurs assistants personnels, deviennent des compagnons permanents. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, là, nous tous, on utilise au moins une fois par jour ces IA. Et il explique que ces outils, ils personnalisent de plus en plus notre environnement. Ils sélectionnent les informations, les musiques, les contenus, parce qu'ils apprennent de nous. Et ça nous apporte un certain confort, même un certain réconfort, hein, parce qu'il reste un peu dans notre environnement. Mais justement, le risque, c'est la bulle de miroir. C'est-à-dire, on va être principalement confronté à nos propres préférences. Voilà, donc c'est ça, c'est un des premiers enseignements. Puis derrière, il s'interroge aussi sur qui contrôle l'IA, qui possède les données, comment préserver une responsabilité humaine. Voilà, c'est un ouvrage assez passionnant.
Et il essaie évidemment, comme presque tous les auteurs, de trancher ce débat sur, en gros, est-ce que l'IA va nous faciliter la vie et nous donner plus de liberté, ou au contraire, est-ce qu'elle va finalement réduire notre autonomie, voilà, et notre capacité à penser par nous-mêmes? Alors, c'est la question à X milliards.
Voilà, aujourd'hui, je dirais un peu des deux, mais de plus en plus, ça va être la deuxième partie. C'est la première partie, qui est l'IA, va nous rendre un peu plus libres, parce qu'elle va nous enlever toutes les tâches rébarbatives. Elle fait, pour nous, aujourd'hui, elle fait des recherches, on fait tourner des agents pour répondre à des emails et tout ça.
Ça veut dire que la vie va être plus simple. Ça veut pas forcément dire qu'on sera plus libre.
Oui, alors c'est là où je viens en deuxième. C'est-à-dire, il y a quand même cette partie, mais ça, on va s'y habituer, et ça va aller assez vite. Donc on va gagner du temps, on va faciliter l'accès au savoir. Donc ça, c'est très bien. Mais de l'autre côté, le risque inverse, c'est que justement les IA, en devenant des compagnons permanents, alors la paresse intellectuelle, déjà première chose, on va laisser faire. Et puis dedans, c'est qu'elle va elle va nous accompagner dans tout un tas de domaines. Alors je disais professionnel, mais aussi personnel. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se confient à l'IA sur leur situation sentimentale, leur situation de mentale. Donc, on risque de devenir un peu lisse, de perdre l'esprit critique. Et puis, elles vont nous proposer aussi des contenus, les seuls contenus qu'on accepte, quoi, les contenus que l'on préfère. Donc, au-delà de devenir, j'avais perdu le fil de ma pensée, par contre, au-delà de devenir plus paresseux, le livre nous dit attention, il va falloir être vraiment vigilant. L'IA, ça peut être un outil très précieux, ouais, mais à condition qu'on conserve vraiment la maîtrise de tout cela.
Frédéric Simotel, sur la une du livre, Bruno Patineau pose la question: vivons-nous les derniers instants de la civilisation que nous avons connue? La réponse, c'est oui ou c'est non?
Je pense à court terme, non, mais à moyen terme, 10-15 ans, oui.
Ah oui, ça rappelle la phrase de Bill Gates qui disait « On surestime toujours les changements à 2 ans, mais ouais, on sous-estime les changements
exactement
à 10 ans. » Eh bien voilà, lisez Bruno Patineau, « Le temps de l'obsolescence humaine » chez Grasset. Merci, cher Frédéric.
BFM Business, La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Un livre de la sociologue Aude Lejeune qui s'appelle « Salariés en justice ». C'est une étude sociologique de la façon dont fonctionnent les conseils de prud'hommes. Alors bien sûr, l'autrice nous rappelle dès le début que la barémisation, entre les ruptures conventionnelles, le recours accru à la médiation, eh bien, il y a de moins en moins d'affaires qui sont portées devant les conseils de prud'hommes. Mais néanmoins, il y en a encore qui viennent. Et là, on suit tout le parcours. Qu'est-ce qui fait qu'un salarié décide d'aller au prud'homme? Comment il se débrouille avec les questions juridiques? Quel est le rôle de l'avocat? Comment ça se passe au moment du procès, entre guillemets? L'attente de la décision. Bref, on fait le tour du fonctionnement des prud'hommes et on apprend vraiment beaucoup de choses.
Jean-Marc Daniel.
Alors moi, j'ai choisi de parler du livre de Alan Greenspan qui nous a quitté cette semaine, le 22 juin. Son livre de mémoire qui était paru très très peu de temps après d'ailleurs son départ de la FED. Il est parti en 2006. Le livre date de 2008-2009. Ça s'appelle Le temps des turbulences. Donc il raconte sa vie, il y a des anecdotes, il y a la façon dont il a envisagé son rôle de président de la FED. La partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est celle qui concerne le 11 septembre. Il est à Francfort, à un sommet organisé par la BCE. Et il y a donc on l'informe des attentats et il décrit ce passage au-dessus de l'Atlantique où il n'y a plus aucun avion, où il n'y a plus aucun bruit, où le pilote le fait venir dans le cockpit et lui dit écoutez, on n'entend plus rien, il se passe plus rien au-dessus de l'Atlantique. Et puis son entretien avec George Bush sur comment il va falloir réagir par rapport à l'événement. Cette partie-là est à la fois assez originale et assez émouvante parce qu'on sent bien qu'il a été secoué par ces attentats du 11 septembre.
Il aura fini par baisser les taux d'intérêt.
Il a fini par baisser les taux d'intérêt.
Il a cessé de faire tout au long.
Par rapport à cette décision qui peut paraître banale, la façon dont l'ensemble est présenté est assez émouvant.
Merci Jean-Marc Daniel. Allez, moi j'ai choisi de vous parler, Coupe du Monde de foot oblige, bien sûr, du dernier opus de Luc Arondel et Richard Duhautois, les économistes spécialistes du sport. Ça s'appelle Foot Business, les 30 Glorieuses. C'est publié chez Odile Jacob. Alors évidemment, les 30 Glorieuses, c'est les années qui commencent à partir des années 90, mais qui sont en train de s'achever. Un livre qui brise pas mal d'idées reçues autour du football. Est-ce que c'est un sport dans lequel les dépenses sont pharaoniques, les auteurs nous disent regardez par exemple, c'est un sport mondial et pourtant on dépense moins pour la Coupe du Monde que pour le championnat de National Football League aux États-Unis. Est-ce que c'est le domaine de l'argent roi? En fait, beaucoup est redistribué aux fédérations nationales dans le cadre de programmes de développement. Puis alors, la partie que j'ai préférée, mais Luc Arondel, il nous l'avait déjà expliqué lorsqu'il était venu dans la librairie pour un précédent livre. Il nous dit, le football, c'est quand même une activité économique singulière. C'est libéral à l'extérieur, mais presque communiste à l'intérieur, puisque c'est quand même un des seuls secteurs dans lequel les travailleurs captent la part la plus importante des revenus généré par la compétition. Voilà, c'est sur ce petit clin d'œil footballistique que s'achève cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.